Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue. C'est parti pour deux heures d'infos. Tous ensemble, à la une, 600 000 chômeurs de moins en un an. Les derniers chiffres sont tombés et ils résistent à la guerre, à l'incertitude économique. Nouvelle baisse de 5% ce trimestre. C'est du jamais vu depuis 10 ans en métropole. Alors, analyse à suivre. Reportage aussi dans une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Notre invité de 18h15 sera Philippe Martinez. Sur l'emploi, le leader de la CGT accorde-t-il au moins un bon point à Emmanuel Macron? On lui posera la question au moment où la bataille des retraites est plus que jamais en gestation. Les autres titres de l'actualité à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un conseil des ministres qui finalement n'était peut-être pas le dernier aujourd'hui. Emmanuel Macron entretient le suspense. RTL a rencontré l'une de celles dont le nom circule pour Matignon. Nathalie Kosciusko-Morizet rencontre à New York, que nous racontera notre correspondant. À suivre aussi une nouvelle plainte pour viol contre PPDA et l'OM, dernier survivant du foot européen face au Feyenoord Rotterdam ce soir. Les courses dans le Quintet Plus à Longchamp. Il fallait jouer le 5, le 4, le 7, le 6 et le 10.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL enquête. Faut-il craindre le retour de la rougeole, explosion des cas dans le monde? Dans une demi-heure, les dessous de l'actu. La gauche cherche à s'unir, ça négocie, mais ça se chamaille, ça se déchire aussi. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé à la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu s'il vous plaît.
Alors que le thermomètre explose en Inde et au Pakistan, on s'est posé la question, la vie sous 50 degrés, c'est comment? Eh bien on a trouvé un aventurier qui a essayé, témoignage complètement fou. Au menu également, un cycliste qui perd sa selle et un colosse qui tire des camions de pompiers à main nue.
Eh, pourquoi pas? À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et ses polémistes et puis des points météo jusqu'à 19h15 avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance pour demain.
Un temps souvent plus nuageux demain.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Ce sont des chiffres qui ont surpris jusqu'aux plus fins connaisseurs. Ceux du chômage, il a continué de baisser en début d'année.
Malgré la vague Omicron, malgré le début de la guerre en Ukraine, malgré les difficultés d'approvisionnement pour les entreprises, le marché du travail a donc résisté, et mieux que prévu même, Martial Liu.
Oui, le nombre de demandeurs sans aucune activité, c'est cette fameuse catégorie A qui avait fait l'objet d'une passe d'armes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pendant le débat d'entre-deux tours. Le nombre de chômeurs donc sans activité a baissé de 5% sur le premier trimestre. Ça fait 169 000 demandeurs en moins. C'est le meilleur trimestre depuis 10 ans, tout simplement. Et sur une année, on a réduit le nombre de demandeurs d'emploi de 600 000 de 15,7%. Donc, en France métropolitaine, c'est important. On passe même sous la barre symbolique des 3 millions de demandeurs d'emploi concernés.
Cette baisse, Martial, est-ce qu'elle concerne toutes les catégories de demandeurs d'emploi ?
Alors globalement oui, la baisse du chômage chez les moins de 25 ans par exemple est de pratiquement 11% dans l'Hexagone sur le premier trimestre, 25,4% sur un an. C'était un des points noirs, on le sait, de notre marché du travail. Maintenant il s'agit quand même d'emplois relativement précaires, hein, puisque ceux qui ont trouvé un travail à temps partiel pour quelques jours seulement dans le mois, eh bien cette catégorie-là, elle augmente légèrement, ça veut dire que l'embellie est donc fragile. Autre motif d'inquiétude, vous évoquiez la guerre en Ukraine, la pandémie, ça commence à avoir un impact sur l'emploi des cadres. Hier, l'APEC a indiqué que les entreprises avaient encore l'intention d'embaucher des cadres cette année, mais un peu moins que prévu finalement, en raison justement de ces incertitudes géopolitiques et puis des difficultés, on le sait, d'approvisionnement.
Oui, on va voir si ça dure. Donc, du côté de chez nos voisins, Martial, ça se passe comment ?
Alors on est plutôt dans la bonne moyenne, hein. L'Espagne par exemple a annoncé ce matin une légère remontée du nombre de demandeurs d'emploi au premier trimestre. On est à 13,6% de la population active en Espagne contre 7,4% en France. En Allemagne c'est mieux, 5% de chômage. Et en Italie la situation est en train de se stabiliser autour de 8,5%.
Décryptage signé Martial Liu, merci. Cap sur le plein emploi a tweeté après la publication de ces chiffres l'actuel ministre du Travail, Elisabeth Borne. Le plein emploi, promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui mise notamment sur la relocalisation de certaines activités.
Et parmi ces filières qui se relancent, celle du textile, comme ici près de Tourcoing à Neuville en Ferrain, où une usine de fabrication de jeans vient d'être inaugurée. 50 emplois aujourd'hui, une centaine espérée l'an prochain. Franck Hanson, vous vous y êtes rendu pour RTL.
Dans l'immense bâtiment tout neuf, les pièces de tissu sont découpées, des poches assemblées. Un jean du Nord qui fait déjà la fierté de ses opératrices, comme Aziza de Tourcoing.
Le plaque et les poches, c'est facile, c'est bien pour moi. C'est produit français, c'est mieux, c'est très 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 bien. C'est la qualité, même c'est pour l'économie.
Soutenue par de grandes enseignes et les collectivités, cette usine entend produire des pantalons à prix accessible, mais 20% plus cher que les modèles de base. Le pari d'une relocalisation pour Christian Kinnon, le directeur général du Denim Center.
En produisant localement, on a un impact de coût de transport, on a un impact de produire les justes quantités au juste moment. Notre vraie richesse, ce sont nos collaborateurs. Ce sont des personnes qui étaient toutes au chômage, au pire, au RSA, voire dans des situations compliquées.
La démarche est aussi écologique, selon Anne-Laure Roger, la responsable production.
On va utiliser des technologies comme le délavage au laser, le délavage à l'ozone, qui vont être les plus respectueuses de l'environnement possible et utiliser 5 fois moins d'eau qu'un process plus classique.
D'ici 2 ans, cette fabrique de Neuville-en-Ferrin sortira 2000 jeans par jour et espère encore grandir.
Un reportage signé Franck Hanson pour RTL.
RTL soir, 18h05. Après avoir donné des sueurs froides à son service d'ordre hier à Cergy, aujourd'hui, c'est avec les nerfs de ses ministres que joue Emmanuel Macron.
Qui entretient le suspense sur son calendrier et son prochain gouvernement, obligeant le porte-parole Gabriel Attal à préciser tout à l'heure.
Alors non, il ne s'agissait pas du dernier Conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et le Conseil des ministres de la semaine prochaine n'a, je crois, pas encore été convoqué. Je ne vous ai pas annoncé ici qu'il s'agissait du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui s'achève, je le rappelle, le 14 mai, ni de ce gouvernement.
Voilà, Vincent de Rosier, on avait quand même parlé d'un buffet après ce conseil tout à l'heure pour que les ministres se disent au revoir. Ça veut dire qu'en fait, l'attente continue.
L'attente est donc ce suspense insoutenable autour du futur Premier ministre. Très concrètement, on va tenter de décrypter Gabriel Attal que vous venez d'entendre. Ça veut dire
on en a besoin.
Que vous ce gouvernement bien Gabriel Attal, vous. Dirigé par Jean Castex pourrait refaire un dernier conseil des ministres la semaine prochaine, mais ce n'est pas certain, car Emmanuel Macron peut décider d'accélérer, de nommer un nouveau Premier ministre. Entre-temps, on voit bien également qu'il s'agit d'une décision de dernière minute, parce que c'est l'Élysée qui a soigneusement mis en scène ce buffet d'adieu avec ministre et secrétaire d'État. Politiquement, on peut en tirer quelques enseignements. 1. La perle rare pour Matignon, sociale, écolo, productive, n'est pas si facile à trouver. Le président a des noms en tête, oui, mais il n'a pas tranché. Ça veut dire aussi que Jean Castex avait parlé beaucoup trop vite quand il expliquait qu'il démissionnerait au lendemain de l'élection. D'ailleurs, il s'est fait taper sur les doigts par l'Élysée après cette sortie. Enfin, le chef de l'État déteste agir sous la pression. Ça, ce n'est pas nouveau. Il l'a prouvé pendant 5 ans et il continue aujourd'hui.
Voilà. Et à défaut de certitude, différents noms continuent de circuler pour Matignon. Celui notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet, figure de droite et ancienne ministre de l'écologie notamment.
NKM, qui travaille désormais dans le privé et vit à New York, aux États-Unis, où vous l'avez rencontrée pour RTL, Lionel Gendron. Est-ce qu'elle vous a paru partante ?
Alors, elle m'a jamais dit c'est n'importe quoi, personne n'insulte l'avenir, même si tout va bien pour elle. Hein. Elle a un poste important dans un fonds d'investissement français à Manhattan. Elle lève des fonds pour des usines de recyclage, entre autres. Elle a toujours ce profil environnement intéressant pour Emmanuel Macron. Elle est évidemment ancienne ministre de l'écologie. Alors, vous dire, est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet en a envie ? C'est compliqué parce qu'elle est restée très prudente. Une anecdote amusante et révélatrice. On parlait un moment des politiques et de leur maîtrise de l'anglais. Et je lui dis, Emmanuel Macron, lui, il parle plutôt bien anglais. Et là, elle s'est arrêtée comme si j'avais posé une question piège, et elle m'a dit « Je ne l'ai jamais entendu parler anglais ». Alors j'imagine que si, mais elle sait que toute phrase sera interprétée et surinterprétée. Puis elle m'a dit aussi « Si RTL apprend que vous êtes en contact avec quelqu'un d'autre, que ce soit vrai ou faux, ça vous met dans une position délicate ». Bon, même si c'est pour Matignon, j'imagine qu'un employeur peut comprendre. En conclusion, j'ai eu le sentiment qu'il n'y ait pas de contact avancé, en tout cas, mais un sentiment n'est pas une information.
Voilà, les confidences de NKM. Merci Lionel Gendron à New York pour RTL. Ajoutons qu'au Rassemblement National, là, ce sont les législatives qui se préparent. Marine Le Pen s'est confirmée, sera candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais. Le Rassemblement National qui ne soutiendra aucun candidat Zemmour au premier tour.
Petite pause et dans un instant, dans ce journal, dans RTL Soir, une nouvelle plainte contre PPDA, la 17e. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal sur RTL avec donc cette nouvelle plainte qui a été déposée hier à l'encontre de l'ancien présentateur vedette de TF1, Patrick Poivre d'Arvor.
Plainte pour viol déposée par une femme aujourd'hui quinquagénaire qui témoigne dans un documentaire diffusé ce soir dans Complément d'enquête sur France 2, Anne Le Hénaff.
Oui, à l'époque, elle a 24 ans, elle sort d'une école de journalisme et elle raconte que PPDA l'a fait venir un soir dans son bureau. La conversation est d'abord professionnelle, puis la star du 20h lui demande si elle a un petit ami.
Je lui ai répondu non. Et là, il se lève. Il fait le tour de son immense bureau. Il vient s'asseoir à côté de moi. Il met ses mains sur mes épaules et il m'embrasse. Et il m'a basculé avec ses mains sur la moquette. Et là, il a enlevé mon pantalon. Il avait enlevé son pantalon et il m'a violée. Ça a duré 2 minutes, pas plus de 2 minutes. Il s'est rhabillé, me suis rhabillée. Et il m'a dit ben, bonsoir, à demain.
Le parquet de Nanterre étudie en ce moment cette nouvelle plainte qui risque de se heurter, comme les autres, à un problème de prescription. Les faits sont trop anciens. 8 plaintes ont déjà été classées sans suite en juin dernier pour cette raison, ainsi que les témoignages d'une 20aine de femmes. Plusieurs de celles-ci se retrouvent visées par une plainte déposée par PPDA pour dénonciation calomnieuse. On ne peut pas accuser impunément, selon l'avocat de l'ancienne star de TF1.
Anne Le Naff, merci. Une enquête ouverte aujourd'hui après les révélations sur le leader mondial des EHPAD, Orpea. Enquête qui fait suite au signalement du gouvernement sur des dysfonctionnements graves dans la gestion des établissements.
La guerre en Ukraine est un échec cuisant pour la Russie. Les mots ce soir du président américain Joe Biden.
Qui promet de continuer à soutenir militairement le pays, il annonce avoir demandé au Congrès le déblocage de 33 milliards de dollars supplémentaires, dont les 2/3 pour des armes. Et c'est une conséquence de la guerre en Ukraine. On vous en a parlé ici même, les difficultés d'approvisionnement en huile végétale. Faute d'huile de tournesol, par exemple, les industriels français ont été autorisés récemment à se tourner vers l'huile de palme pour leurs recettes. Sauf que Virginie Garin, l'Indonésie, principal pays exportateur, vient de couper les vannes. Et les industriels désormais sont un peu perdus.
Oui, ils essayent en ce moment d'évaluer les impacts avec le ministère de l'Agriculture, car la décision était assez brutale. L'Indonésie, c'est le plus gros exportateur au monde d'huile de palme, et tout d'un coup, elle arrête tout pour protéger sa population. Ça fait partie là-bas des aliments de base, et comme le monde entier était en train de remplacer l'huile de tournesol ukrainienne en partie par de l'huile de palme, eh bien ça faisait grimper les prix. Alors, il y a d'autres producteurs, dont la Malaisie, qui vont pouvoir en fournir, mais les cours risquent d'augmenter, et de toutes les huiles végétales d'ailleurs. Arthur Portier, spécialiste des matières agricoles chez Agritel.
La tension est d'autant plus palpable qu'elle touche donc l'huile de palme, elle touche l'huile de tournesol. On a des difficultés actuellement sur le colza puisqu'il y a une récolte néfaste l'année dernière au Canada. Donc c'est vraiment l'accumulation de la tension de toutes ces huiles qui entraîne de la nervosité. Et donc on s'attend à une hausse des prix pour le consommateur final.
Alors les fabricants français espèrent quand même que les Indonésiens rouvriront leurs frontières assez vite et en attendant ils vont écouler leurs stocks.
Virginie Garin. Je ne vous demande pas ce que vous faites ce soir, Julien. Je le rappelle, vous avez match.
Je m'échauffe là.
Dernier club français en Coupe d'Europe à Marseille sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Ce soir, demi-finale allée de la Ligue Europe Conférence.
Alors Hugo Hamelin, vous êtes dans la plus belle ville du monde, Marseille pour RTL. Ça a beau être la petite Coupe d'Europe, certains se moquent ici dans la rédaction, mais les Marseillais en font un réel objectif.
Exactement, c'est ce que les joueurs répètent depuis des mois, depuis leur élimination sans gloire cet hiver de l'Europa League. Jorge Sampaoli, l'entraîneur marseillais, rabâche que son équipe veut aller au bout en finale le 25 mai en Albanie. Alors, petite Coupe d'Europe, c'est vrai, parsemée de clubs de seconde zone. Marseille a joué à Karabakh, en Azerbaïdjan, à Thessalonique, en Grèce, mais à chaque fois dans des stades incandescents. Ce sera d'ailleurs encore le cas ce soir à Rotterdam. D'ailleurs, entre journalistes marseillais, on surnomme cette Coupe le Hooligan Tour. Mais pour l'OM, c'est l'occasion de prouver une nouvelle fois son ADN européen. C'est l'équipe française qui a disputé le plus de finales de Coupe d'Europe, 5 au total. 2000 supporters marseillais sont à Rotterdam ce soir dans une ambiance calme. Alors une petite Coupe d'Europe, mais un grand objectif, surtout pour Dimitri Payet, l'artificier de l'OM dont le palmarès est vierge et qui le sait, à 35 ans, c'est l'une de ses dernières chances de soulever un trophée.
Ouais, très attendu donc ce soir, et on rappelle l'heure du rendez-vous, 21h à suivre sur MC. Ce Feyenoord Rotterdam Marseille.
Tous devant la télé, n'est-ce pas Marion?
Ah oui, bien sûr.
À tout à l'heure. Le temps, Peggy, oui, pour demain, dites-nous tout.
On a une perturbation de faible activité qui va concerner la moitié nord demain, avec un ciel bien couvert du Poitou au Hauts-de-France et juste quelques ondées, pas grand-chose le matin comme l'après-midi. Ça restera chargé dans le sud-ouest le matin, mais le soleil va dominer dans l'est et au pied des Pyrénées. On aura aussi quelques éclaircies entre la Bretagne et le Cotentin dans l'après-midi. Donc cette perturbation, elle va se décaler entre le Grand Est et l'Auvergne. Toujours très peu de pluie. Ailleurs, un temps sec entre nuages et éclaircies dans l'ouest. Et puis le soleil résistera entre la Corse, le sud-est, le Jura et l'Alsace. Et puis on a toujours ce petit risque d'averses orageuses en montagne l'après-midi. Donc sur les Pyrénées, Pyrénées et le Massif central. Les températures, elles seront en légère baisse, mais toujours douces hein, pour la saison, à part ce petit 14 degrés à Cherbourg dans l'après-midi. Il fera 17 à Lille, 21 à Paris et Mulhouse, 22 à Toulouse et jusqu'à 25 degrés à Grenoble comme à Nîmes.
Merci beaucoup, Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Faut-il redouter le retour de la rougeole ? Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas une maladie du passé. Loin de là, explosion des cas dans le monde. Plus 80% en deux mois au début de l'année. L'UNICEF, l'OMS, alerte. On va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
Ce boom des cas de rougeole, il est mondial.
Oui, selon l'OMS, plus de 17 000 cas de rougeole ont été recensés dans le monde en janvier et en février. C'est près de 8 000 de plus qu'il y a un an. Et puis ces derniers mois, il y a eu des épidémies importantes en Afghanistan, au Yémen, mais surtout en Afrique, où ce début d'année a été marqué par une hausse de 400% des cas là-bas, à cause des gros retards de vaccination depuis la pandémie de Covid.
Vous pouvez nous rappeler les symptômes de la rougeole ?
Oui, d'abord c'est une forte fièvre, des yeux rouges, de la toux. Et après 5 jours, des taches rouges apparaissent sur la peau. Cette infection est l'une des plus contagieuses du monde. Elle touche aussi bien les adultes que les enfants. Les plus âgés et les nourrissons risquent d'ailleurs des complications comme des pneumonies, des atteintes du cerveau ou des convulsions.
Et en France aussi, il faut s'inquiéter ?
Alors non, du moins pas pour l'instant, car la rougeole ne circule quasiment plus chez nous depuis 2 ans. Grâce au confinement et aux gestes barrières, 16 cas de rougeole seulement déclarés en 2021 contre plus de 2600 en 2019. C'est aussi grâce à la vaccination qui est devenue obligatoire pour les nourrissons il y a 4 ans.
Quel conseil peut-on donner aux parents qui nous écoutent, qui se disent, bon bah, je reprends le carnet de santé là, pour voir si tout est à jour?
Je leur dis que c'est une bonne idée, qu'il faut vérifier si votre enfant a bien reçu ce vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Normalement, les enfants le reçoivent en 2 doses, à 12 mois puis à 18 mois. Si votre enfant est né en 2018 ou après, il est forcément vacciné car c'est obligatoire. Mais s'il a plus de 4 ans, il vaut mieux vérifier dans le carnet de santé ou en demandant au pédiatre. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il n'est pas trop tard. Cette vaccination peut se faire à tout âge, même à l'âge adulte.
Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup, docteur Landais. Courte pause. Et ensuite, Philippe Martinez sera notre invité. Face à la retraite à 64-65 ans, la CGT prépare-t-elle un troisième tour social ? On va lui poser la question. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir. Julien Sellier.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, vous écoutez RTL, 18h20, et donc quelques jours après la réélection d'Emmanuel Macron, notre invité est l'un de ses opposants réguliers dans la rue ce soir. Philippe Martinez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général de la CGT. L'entre-deux-tours que vous avez, j'imagine, suivi a été marqué par la question des retraites. On a vu le chef de l'État interpellé sur le terrain par des passants, par des Français. D'après les sondages, 2/3 d'entre eux refusent un départ à 65 ans. Emmanuel Macron semble prêt à descendre à 64. Il dit avoir entendu les craintes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a bien entendu les craintes, Emmanuel Macron ?
Justement, j'ai la crainte qu'il n'entende pas plus qu'il n'entendait durant son premier quinquennat, puisque, vous l'avez répété, 3/4 des Français sont contre cette mesure. C'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, et pourtant, il persiste et il signe le fait qu'il faudrait travailler plus longtemps. Je crois que c'est complètement en décalage et avec les réalités du monde du travail, et avec les besoins de création d'emplois, et le besoin de laisser de la place à la jeunesse. On ne peut pas faire en sorte que les jeunes aient du boulot si les plus anciens restent plus longtemps au boulot. C'est une question de logique.
Quand le ministre Bruno Le Maire, lundi de bon matin, lendemain de réélection, dit « je ne peux pas garantir qu'on n'utilisera pas le 49-3 », vous avez avalé de travers votre café ?
Non, non, parce que c'est pas nouveau là aussi que on l'a vu en 2020 lors de la précédente réforme qui a capoté grâce aux mobilisations, que le gouvernement et le président de la République écoutaient mais essayaient déjà de passer en force. Donc j'allais dire chasser le naturel et revient au galop.
Il se justifie, Emmanuel Macron. Il dit ma réforme va dégager 18 milliards pour le grand âge, pour le progrès social. Il veut discuter de la pénibilité pour que les métiers difficiles puissent partir plus tôt. Le progrès social, vous y est attaché, il faut bien le financer, Philippe Martinez.
C'est pas parce que le président de la République parle de progrès social qu'on doit le croire. Il jette la confusion entre les impôts et les cotisations sociales. Vous le savez, ce ne sont pas les impôts qui financent la retraite, ce sont les cotisations sociales. Et il faut donc arrêter d'exonérer les entreprises de leur cotisation sociale, mais au contraire les faire payer. Parce que c'est ça qui fait rentrer de l'argent dans les caisses de la sécurité sociale, et c'est bon pour la retraite, pour les financer, mais c'est aussi bon pour la santé. Je crois que la santé, les hôpitaux ont besoin d'argent. Plus de monde au boulot, augmenter les salaires, ça fait rentrer des cotisations, et c'est donc plus d'argent pour la sécurité sociale. C'est pas les impôts qui financent la sécurité sociale, et il devrait réviser ses fiches, le président de la République, et arrêter de jeter cette confusion en disant aux Français, vous allez, grâce à moi, vous allez payer moins d'impôts, c'est bon pour votre pouvoir d'achat, enfin toutes sortes de bêtises qu'on peut entendre.
On se demande si le troisième tour ne sera pas social. Est-ce que vous avez déjà discuté, au-delà du 1er mai, est-ce que vous avez déjà discuté de dates de manifestation avec les autres syndicats, et notamment avec la CFDT, puisque pour une fois vous êtes d'accord, elle s'oppose aussi à la retraite à 65 ans.
Nous discutons, en tout cas moi j'insiste sur le rendez-vous du 1er mai, parce que une semaine après l'élection du président de la République, c'est l'occasion de montrer, puisqu'il n'a pas l'air de comprendre, que les urgences, elles sont sociales et environnementales. Il y a des échanges avec les autres organisations syndicales. Le 1er mai sera largement unitaire, même si tout le monde n'est pas là, et nous discutons avec toutes les organisations syndicales, pour
CFDT comprise.
Toutes les organisations syndicales, pour voir quelle réponse unitaire on donne à ce projet ou cette volonté du président de la République de passer l'âge de la retraite à 65 ans.
En parlant de la CFDT, vous lisez les journaux, Philippe Martinez. On a vu fleurir ces derniers jours parmi d'autres le nom de Laurent Berger comme idée pour Matignon. Ce serait un bon chef du gouvernement ?
Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle politique le gouvernement va mettre en œuvre. C'est d'abord ça qui compte. Si on a un chef de gouvernement, je crois que c'est le président de la République qui commande beaucoup, qui dit on va augmenter le SMIC plus que les 2 et quelques pourcents du 1er mai. S'il nous dit on va faire du CDI de la règle, parce qu'il y en a marre de la précarité, notamment pour les jeunes. S'il nous dit on passe la retraite à 60 ans, ça sera un bon chef du gouvernement, Berger un autre, si ces mesures-là sont mises en œuvre. C'est bien une question de politique et pas une question de personne.
Vous avez parlé d'emploi un petit peu plus tôt. Un mot des chiffres du chômage. Forte baisse encore, 5% au premier trimestre pour les catégories A, sans activité. Ça, c'est quelque chose quand même que vous reconnaissez au gouvernement, le recul du chômage, 600 000 chômeurs de moins en un an.
Je reconnais les chiffres. Mais il faut regarder ces chiffres qui sont en trompe-l'œil. Premièrement, la précarité, elle diminue moins vite que la catégorie A. Et il faut savoir que les autres catégories, c'est quelqu'un qui travaille une heure dans un mois, il n'est plus considéré comme un chômeur. Vous connaissez beaucoup de monde qui puisse construire sa vie en travaillant une heure par mois, aller chez votre banquier ou essayer de louer un appartement en disant à votre bailleur « je travaille qu'une heure par mois ». Ça, c'est la première chose. Et puis ce qu'on oublie de dire, c'est que 40%, à cause de la réforme de l'assurance chômage, le nombre de radiés en un an de l'assurance chômage de Pôle emploi a augmenté de 41%. C'est sûr qu'en dégageant les chômeurs des statistiques, le chômage baisse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut la transparence et la réalité sur les chiffres du chômage.
Philippe Martinez, vous défendez le pouvoir d'achat des salariés. C'était la préoccupation numéro un des électeurs au premier tour quand ils ont mis un bulletin dans l'urne. Quel regard vous portez sur les sanctions envers la Russie ? Parce que le gaz de Moscou pourrait bien être coupé dans les jours qui viennent. L'Europe cible désormais le pétrole. Il y aura des discussions à Bruxelles ce week-end. Au moment où, à la pompe, les prix sont en train de repasser quasiment au-dessus des 2 euros le litre. Les sanctions, il faut les prolonger, les renforcer ou... Il faut aussi commencer à faire attention à l'impact sur notre pouvoir d'achat ici.
Non, mais notre position, elle est claire sur la Russie. Il faut des sanctions économiques vis-à-vis de la Russie et éviter toute escalade militaire, parce qu'on ne gagne pas la paix en faisant la guerre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, toute proportion gardée, la guerre en Ukraine a parfois bon dos. On commence à voir les entreprises qui nous disent un peu ce qu'elles nous disaient avant l'arrivée du virus, ça va être dur pendant des années, etc. Et vous avez noté, comme moi, que l'année 2021 a été plutôt favorable aux entreprises. Les bénéfices ont explosé. D'ailleurs, certains PDG se sont bien servis. Vous savez, ceux qui nous disent qu'il faut se serrer la ceinture, j'en connais un. Chez Stellantis, par exemple, lui qui... a pas oublié de s'augmenter, alors qu'il dit à ses salariés, serrez-vous la ceinture. Donc ça, c'est... la question qui est posée, c'est comment on augmente les salaires. Est-ce que vous savez, par exemple, que le SMIC qui va augmenter automatiquement au 1er mai va faire que, dans une profession dont on a beaucoup parlé, commerce, hôtel, café, des restaurants, eh bien, toutes les conventions collectives de cette branche vont repasser en dessous du SMIC.
En dessous du SMIC.
Ça, c'est un problème qu'il faut régler.
Vous n'avez pas
un
répondu problème. À ma question sur les sanctions envers la Russie.
Je vous ai répondu. Je pense qu'il faut agir à tous les niveaux, et donc notamment sur les sanctions vis-à-vis de Poutine, évidemment. Par exemple, on s'est battu pour que les entreprises françaises se retirent de Russie, mais qu'elles continuent à verser des salaires aux ouvriers et ouvrières russes qui n'ont pas rien à voir avec ce problème. Vous voyez ? Donc je suis très précis sur ma réponse.
Dimanche, Philippe Martinez, vous nous avez parlé du 1er mai, vous allez défiler. Est-ce que vous aimeriez avoir à vos côtés une gauche unie, insoumis, écolo, communiste, socialiste, bras dessous? On sait qu'il y a des négociations en ce moment pour les législatives.
Tous ceux qui... En tout cas, moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde, parce que c'est vraiment une journée très importante, très très importante, pour montrer ses exigences en matière sociale et environnementale. Si les différents partis politiques veulent défiler, ils le font peut-être moins nombreux parfois, mais ils sont toujours les bienvenus au 1er mai.
Vous aimeriez qu'ils soient ensemble ou séparés?
Ils font ce qu'ils veulent, mais je vous dis, plus on est nombreux, plus ça pèse sur le futur gouvernement. Et vous savez bien qu'au 1er mai, c'est une journée internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses. Les syndicats, les associations, les ONG seront présentes, et je m'en félicite. Et les partis politiques ont toujours leur place en queue de cortège.
Avant le premier tour, vous étiez venu dans ce studio. Vous n'aviez pas voulu nous dire pour qui vous alliez voter. Je retente ma chance. Vous avez voté pour qui au premier et au second tour?
Je vous avais dit pour qui il ne fallait pas voter. Vous vous en rappelez? Eh bien, je vous réponds la même chose.
Donc on ne sait pas pour qui vous avez voté, mais on sait valable. Pour qui vous n'avez pas voté.
Exactement, vous avez tout compris.
J'ai retenté ma chance. Merci beaucoup, Philippe Martinez, leader de la CGT, d'avoir
Merci
été notre invité ce soir sur RTL. RTL Soir revient dans un instant avec vos dessous de l'actu, les dessous justement tiens, des négociations à gauche. L'idée, c'était de s'unir, certains sont en train de se désunir. Et puis laissez-vous tenter dernière avec le spectacle d'une humoriste totalement insomniaque, mais très très drôle. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. Dans RTL.
Vous écoutez RTL 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est une riche idée, d'autant plus que Marion Calais vous rappelle maintenant les trois grands titres de l'actu.
Plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre depuis le début de l'invasion russe, les chiffres de la procureure générale d'Ukraine. Aujourd'hui, 10 soldats russes ont été mis en examen et vont être recherchés pour des crimes commis à Boutcha dans la banlieue de Kiev. La bataille des législatives et cette précision, ce soir Marine Le Pen sera bien candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais, le RN qui ne soutiendra pas ailleurs aucun candidat reconquête. Et puis 21h ce soir, le dernier club de foot français encore en lice en Coupe d'Europe, Marseille, sur le terrain du Feyenoord Rotterdam. Demi-finale aller de la Ligue Europe, conférence à suivre en direct sur M6.
À 21h, ça c'est très bien noté. Merci beaucoup Marion. Le temps, Peggy, pour demain, c'est bien?
Ça se dégrade au nord. Ouais, ce sera plus nuageux. On a une faible perturbation en fait sur la moitié nord. Le matin, on va la retrouver entre le Poitou, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Un ciel bien couvert, mais juste quelques ondées éparses. Vraiment pas grand-chose. Ce sera encore bien chargé dans le sud-ouest, mais ensoleillé ailleurs. Et dans l'après-midi, cette perturbation au nord, elle va se décaler entre le Grand Est et l'Auvergne. Dans l'ouest, on aura un ciel variable entre soleil et quelques nuages. Et ce sera plus ensoleillé entre le sud-est et l'Alsace. Et puis toujours un petit risque d'averse orageuse sur les reliefs des Pyrénées et l'ouest du massif central. Température, peu de changements finalement. On se couvre quand même, on met une petite veste le matin. Et l'après-midi, bon, on est toujours au-dessus des normales, souvent autour des 20 degrés, 20 à Reims, Metz, Aurillac, 21 à Paris et Bourges. Et jusqu'à 25 à Perpignan et Montélimar.
Merci Peggy.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir des négociations à gauche. L'union derrière les insoumis est-elle vraiment possible aux législatives? Les discussions entre les troupes de Jean-Luc Mélenchon, les écolos, les communistes, les socialistes s'enchaînent. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
Alors à gauche on dort peu en ce moment, on discute, on s'envoie des pics aussi. La négo qui se déroule le mieux pour l'heure, c'est quand même une surprise. C'est entre insoumis et socialistes.
Hein. Oui, et il y a une explication. Ce n'est plus le même PS, dixit Manuel Bompard, bras droit de Jean-Luc Mélenchon. De fait, les négociateurs socialistes sont pour partie de la génération qui n'a pas gouverné. Ils ne veulent plus être comptables de l'héritage du quinquennat Hollande. A contrario, les anciens essaient de torpiller tout accord. François Hollande agite l'épouvantail de la disparition du parti de Mitterrand. Les négociateurs PS me font penser aux bourgeois de Calais, dit l'ex-premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. Alors, la jeune génération a peut-être la corde au cou, mais elle veut un accord, quitte à abjurer la retraite à 62 ans.
Alors, en revanche, entre insoumis et verts ou communistes, ça coince, ça chauffe même.
Ah bah oui, les verts se sont étranglés en voyant l'affiche Mélenchon Premier ministre sortir en pleine discussion. Les insoumis se plaignent des divisions chez les écolos. La vérité, c'est qu'insoumis et écolos sont irréconciliables sur l'Europe et sur l'OTAN. Quant aux communistes, eh bien, ils sont gourmands. Trop pour les insoumis. Prêts à sauver la quinzaine de sortants communistes, mais pas plus. Alors, Fabien Roussel s'insurge. Ça doit être gagnant-gagnant, pas gagnant tout court pour LFI.
Bon, on l'entend. Il y a 50 nuances de rouge, de rose, de vert. Ce n'est pas gagné, mais dans les états-majors, sur le papier, est-ce que chacun a intérêt à une alliance?
Ah bah oui, et pas qu'un peu. Hein, parce que le financement de la vie politique, il est basé sur les voix obtenues au premier tour des législatives. Alors, plus vous avez de candidats, plus ils recueillent de voix, bah mieux c'est. Écolos, communistes et socialistes jouent leur survie financière et puis veulent encore être audibles à l'Assemblée. Et pour ça, il faut un groupe autonome avec au moins 15 députés. Les insoumis aussi ont besoin d'alliés parce qu'ils n'auront pas la majorité à eux tout seuls. Ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon a 17 députés aujourd'hui. Seul, LFI peut les multiplier par, disons, 4 ou 5. Mais pour aller au-delà, il lui faut à lui aussi l'accord le meilleur possible.
Les dessous des négociations à gauche compliquées. Donc on l'a compris avec Marie Bénédicte Allaire pour RTL.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Allez, bonne fin de journée, 18h35.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, laissez-vous tenter, dernière. Maintenant, on va changer d'air, comme chaque soir, les bons conseils de la bande de LVT pour vous divertir et occuper vos soirées. Julia Molcou est avec nous. Bonsoir, Julia.
Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous.
Vous nous emmenez dans une salle de spectacle, la Nouvelle Scène, à Paris. C'est dans le 5e arrondissement. Et alors, on va passer une nuit avec Laura Domange, c'est bien ça?
Ouais, c'est bien le titre du spectacle de cette comédienne humoriste que j'adore, Laura Domange, donc. Mais je vous rassure, hein, rien de torride là-dessous. Laura va bien rester sur scène et le public restera assis, au moins jusqu'à la standing ovation qu'il peut lui faire. Parce qu'une nuit avec Laura Domange, en fait, c'est un spectacle qui parle de ses insomnies quotidiennes.
J'ai remarqué qu'avec le temps, à cause de mes insomnies, mon caractère s'est modifié, mes réactions se sont altérées. Je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus angoissé, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus stressée, beaucoup plus distraite aussi. Je suis devenue ma mère et les gens pensent vraiment que c'est mon état normal quand je suis comme ça, quand je parle comme ça. Ça va toi en ce moment? Ouais, super, un coca s'il vous plaît, mais c'est pas bon. Enfin si, c'est bon, mais pas pour la planète. C'est bon de rire. Et vraiment,
pendant une heure environ, avec le débit mitraillette que vous venez d'entendre et l'écriture ciselée qu'on lui connaît, eh bien Laura Domange partage avec nous ses nuits blanches et toutes les pensées qui la traversent. Et je peux vous dire que les sujets sont aussi nombreux que variés. Ça va d'un enterrement de vie de jeune fille, vous savez qu'on organise entre copines, au point commun entre Edith Piaf et Aya Nakamura, ou encore les fameuses questions existentielles qu'on se pose toujours à la bonne heure, c'est-à-dire entre 3 et 4 heures du matin, vous savez.
Ouais, c'est la pire celle-là.
Exactement.
3 heures du matin. Mais de ce que j'ai pu entendre, elle n'a pas du tout l'air épuisé sur scène. Elle fait comment pour tenir ce rythme en ne dormant que 3 ou 4 heures par nuit? Parce que moi, je peux pas.
C'est ça, je savais que vous cherchiez un tips. Eh bien, écoutez, je ne sais pas exactement. Ça relève du miracle. Elle dit que ce sont les nerfs qui tiennent. Mais pour autant, elle assume quand même et elle dit haut et fort que quand on dort si peu, on fait pas mal de bêtises.
Faut qu'on arrête, moi, je pense, de juger les gens sans connaître leur temps de sommeil. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord, parce que quand on a dormi 3 heures, ça se voit pas forcément sur notre visage et on est crevé. Moi, je vois, je veux dire, je fais des bêtises quoi quand j'ai dormi que 3 heures. Enfin, là, on fait des conneries, par exemple, j'envoie un mail, j'oublie la pièce jointe. Et bah ouais, je ferme la porte, j'oublie les clés sur la porte. Bah ouais, voilà, je roule une pelle, j'oublie que j'ai un mec. Je ne t'ai pas trompé, je me suis trompé.
Et ben voilà, une nuit avec Laura Domange, c'est ce soir et tous les jeudis à 21h15 à la Nouvelle Scène à Paris dans le 5e. Et puis les vendredis à partir du 6 mai prochain, vraiment prenez vos places, cette fille est formidable.
Et pourtant elle dort peu.
Et pourtant elle dort peu, exactement.
Elle a l'air absolument formidable. Qu'est-ce que vous faites que vous avez mal dormi vous? Moi je m'arrête au feu vert.
Ah bah c'est bien.
Très régulièrement. Et à Paris, en général, la seconde suivante, on se fait insulter. Laura Domange, courez la voir. C'est donc à la Nouvelle Scène dans le 5e arrondissement de Paris pour tous les franciliens. Et ceux qui sont de passage, courez-y. Merci Julia.
Merci. Essayez de dormir un peu, Julien. On sera mieux demain.
RTL, revivre ensemble.
Dans un instant, RTL Soir continue, on va défaire le monde. Cyprien Sini, Laurent Tessier, Céline Landreau, le trio de la fin d'après-midi arrive en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Alors on va défaire la canicule. Canicule extrême en Inde et au Pakistan. 50 degrés, humidité maximale. Comment le corps humain réagit? un de nos invités à tester pour nous. Ouais. À tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.